Bien, alors après ces échanges fructueux ce matin que j'ai trouvé, du coup j'ai volontairement éliminé un certain nombre d'éléments de ma présentation, parce que notamment des témoignages, hein, puisque ce que vous avez donné ce matin était beaucoup plus vivant et réactif que ce que j'aurais pu apporter. Donc, je vais terminer rapidement sur les éléments, je dirais, généraux de l'évaluation à l'intérieur desquels on place évidemment ce qui concerne la didactique des langues. Et puis, on va être un petit peu plus sur des aspects plus spécifiques et notamment sur des propositions d'outils d'évaluation. Alors, certains que vous connaissez, donc il y a des portfolios, vous les verrez dans le livret du participant. Il y a des scénarios d'évaluation dont on en a parlé ce matin. Il y a un certain nombre de possibilités de travail, notamment sur la mise en œuvre du CECR dans certains établissements. Et puis, je vous ai proposé aussi, page 7, un comparatif entre les descripteurs qui sont ceux du CECR pardon, et leur transcription en EduSchool. Vous pourrez voir, on n'aura pas le temps de l'analyser parce que ça demanderait finalement un long moment, parce que c'est intéressant de voir qu'il y a, je dirais, une adaptation EduSchool du CECR et réciproquement. Bon, on ne va pas l'analyser là parce qu'on, sinon ça, vraiment, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais ça vous permet d'avoir déjà un petit regard en faisant attention quand même au fait que pour le CECR, les éléments qui sont mis là, ce sont des descripteurs qui sont faits par l'apprenant lui-même. Hein. Alors que pour EduSchool, on n'est pas sur une auto-évaluation. Donc là, vous pourrez le voir, c'est page 7 du livret du participant. Alors, pour en terminer avec les aspects généraux qu'on a vus ce matin sur les évaluations, un élément auquel il faut absolument porter toute son attention, c'est la manière dont on va rendre compte des résultats des évaluations. Donc on a vu ce matin, Yoli nous disait, moi par exemple, il y a des moments où je vais dire tant de réussite, tant de mots bien écrits sur tant de mots possibles, ou un pourcentage de réussite, à d'autres moments on a parlé de notes. On peut aussi parler d'autres manières de formuler les résultats, soit avec un type de notation ou de rendu du résultat. Alors attention à bien réfléchir au barème ou au type de notation que l'on va rendre. Par exemple, pour la dictée, si on n'utilise pas la proposition de Yoli ou d'autres qui ont pu être faites, si à ce que j'ai bien compris, en général, ce qui est proposé quand on note une dictée, c'est de partir de 20 et puis d'enlever en fonction du nombre d'erreurs, indépendamment du nombre de mots ou de difficultés ou de pondération des difficultés par rapport aux mots. Le barème est lui aussi sujet à question, puisque est-ce qu'on enlève un point par faute, deux points par faute, un demi-point par faute, pour quel type de faute. Je parle bien de faute volontairement, hein, puisqu'on est là dans une sanction de l'erreur. Alors, je disais tout à l'heure, avoir 20 sur une dictée de 300 mots, c'est pas avoir 20 sur une dictée de 3 lignes. Hein. Et avoir 0 avec 70 fautes, c'est pas avoir 0 avec 20 fautes, surtout si c'est le même élève qui 6 mois plus tôt faisait 70 fautes et qui 6 mois plus tard fait 20 fautes. Donc attention à la manière d'envisager la notation et à la manière de rendre compte de celle-ci. Parfois, pour éviter l'aspect mesure quantitative, on introduit un codage par lettre en fonction des types d'activités qu'on propose. Donc, en général, c'est A très satisfaisant, B satisfaisant. On est en général sur des modalités de 5. Le plus souvent, on est aux alentours de modalités de 5 critères possibles. Un, complet, un très faible, un médium et un entre les deux, dans chacun des intervalles. Ça, c'est valable pour le codage en lettres. C'est valable aussi pour des éléments de marquage de couleurs. Au collège, ça se fait moins, bien que ça se fasse quand même. Et vous verrez, dans les portfolios, ça se fait parfois. On code en couleurs. Alors, codage en couleurs, ça peut être, en général, d'ailleurs, on propose que 3 couleurs. Acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Un codage à 3 couleurs, c'est pas format, enfin, 3 couleurs ou 3 notes ou 3 lettres, c'est pas suffisant. Parce que ça ne laisse pas une marge suffisante pour comprendre des états intermédiaires. C'est-à-dire que si vous avez, en général, c'est vert, c'est bon, c'est top, c'est très bien, c'est acquis. Rouge, non acquis. Jaune ou orange, en cours d'acquisition. Sauf que le en cours d'acquisition, on ne sait pas si c'est en début de cours d'acquisition ou si c'est à renforcer. C'est-à-dire qu'on sait relativement souvent, on réussit relativement souvent, on a compris un certain nombre de choses, mais la compétence est encore partielle. C'est-à-dire qu'elle est mobilisable dans certains contextes, à certains moments, mais pas systématiquement dans tous les contextes. Donc, on essaye, quand on fait un codage qui n'est pas noté, d'avoir au moins 5 items. Pour les plus jeunes, ça ne vous concerne pas pour la plupart d'entre vous. On a vu des enseignants, notamment de maternelle ou de cycle 2, donc CP-CE1, l'utilisation d'émoticônes. Hein, vous savez, c'est les petites binettes, là, on sourit, on est content, on n'est pas content. Alors, là-dessus, je ne porte pas de jugement, mais je vous dis simplement qu'une de mes collègues conseillères pédagogiques a travaillé sur les émoticônes en maternelle et que, quand elle a interrogé les enfants en leur disant ben, « Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vois sur ton travail un petit visage souriant ?» Ça veut dire que maman et la maîtresse, elles sont contentes de moi. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois un petit visage? Ben, je ne suis pas content parce que je me dis quand même la maîtresse, ben, elle n'est pas contente. Hein. Alors, évidemment, on relativise, ce sont des jeunes enfants pour lesquels l'émotionnel affectif est très puissant. Mais ça veut quand même dire qu'on associe à quelque chose qui est censé être critérié de manière le plus objectivement possible un élément qui est de l'ordre de l'émotion ressenti soit par l'élève apprenant, soit par l'évaluateur. Donc, j'aurais tendance à vous dire, réfléchissez bien avant de proposer des émoticônes pour une évaluation, notamment critériée ou à barème. Est-ce que l'on met des appréciations et de quel type ? Moi, j'ai été très surprise de voir que les étudiants avec lesquels je travaille, qui sont des étudiants de Master 1, Master 2, c'est-à-dire Bac plus 4, Bac plus 5, sont très souvent évidemment sensibles aux notes qu'ils obtiennent parce que ça conditionne leur réussite et la mention à l'obtention de leur diplôme, mais sont aussi extrêmement sensibles aux appréciations. C'est-à-dire qu'une note moyenne, mais pondérée par une appréciation positive, donne à l'apprenant ne donne pas à l'apprenant un sentiment d'échec, ne le décourage pas. Alors qu'un apprenant à qui on va mettre une bonne note, mais en lui disant bah, vous auriez pu faire mieux quand même, finalement l'appréciation joue un rôle puissant dans la dynamique qui suit l'évaluation. Alors, il y a eu tout un travail sur la notation et sur sur son poids, sur les dynamiques d'apprentissage à la suite des notations. L'appréciation est une manière d'introduire du lien entre l'évaluateur et l'évalué. Par exemple, pour une même note, 14, il y a des élèves pour lesquels qu'on va extrêmement féliciter. Parce que sur ce champ-là, cet élève-là, quand il a 14, ça veut dire qu'il montre qu'il a fait un gros travail derrière. Pour la même note 14, pour un autre élève, on va lui dire « Dis donc, mon gars, tu t'es pas foulé », même si on ne le dit pas comme ça. Hein. Donc, évidemment, ces appréciations, je pense qu'il faut y penser. On n'a pas parlé là du tout de la place des parents dans la dimension évaluative, mais de manière générale, on doit absolument réfléchir à comment on transmet les résultats des élèves à leurs parents. Hein? Parce que, de la même manière, envoyer un bulletin avec pas d'appréciation, vraiment deux mots, je comprends pour l'avoir vécu, c'est long, c'est fastidieux, quand on vient de s'en taper 70, on n'a plus d'inspiration, mais ça n'empêche que pour les parents, il y a une manière de présenter les résultats aux évaluations. Les bulletins, ce sont aussi des évaluations, enfin, on rencontre des évaluations. Là aussi, les parents sont très, très, très sensibles. Enfin, bon, vous l'avez vécu, vous, en tant qu'apprenant. Hein, quand le bulletin arrive, où on est ravi quand on était enfant. On était ravi ou désespéré ou inquiet. Ou des notes, mais aussi des appréciations. Et les parents, c'est parfois le seul moyen qu'ils ont de voir. Non, ça pose un vrai problème. Parce qu'une note, surtout si c'est une note non commentée, la note, c'est de la mesure. Vous donnez une mesure, mais vous ne donnez pas ce sur quoi cette mesure a porté. Vous ne donnez pas ce en quoi ça, c'est fonction des progrès dans l'apprentissage de l'enfant. Vous ne donnez rien d'autre qu'une adéquation plus ou moins réussie à la norme qui est celle de la classe ou de l'enseignant qui évalue. Mais vous ne dites rien d'autre du travail de l'enfant. Et là, on oublie la personne. Donc c'est vrai que là je pense que dans les établissements, pas seulement, hein, je pense que les inspecteurs sont en général bien conscients de cela et font vraiment des efforts de formation auprès des enseignants. Il y a vraiment une appropriation des équipes d'établissement autour de cela. Hein. Alors j'ai vu des choses moi qui peuvent être contestables, hein. J'ai vu des rendus de bulletins collectifs. Bon, moi je trouve ça un petit peu tendancieux, je l'ai vu, hein. J'ai vu des parents qui ont pu assister au conseil de classe quand il s'agissait de leur enfant. J'ai vu le rendu des bulletins systématiques m'en fait par le professeur principal avec des éléments qui étaient vraiment une... Alors, là encore, bon, chaque établissement trouve sa propre réponse adaptée au contexte, à la situation, aux familles, aux habitudes culturelles et sociales du quartier dans lequel il travaille. Mais je dirais que en tant que membre d'une équipe, plus seulement maintenant en tant qu'enseignant proprement de langue, hein, mais en tant que membre d'une équipe, cette réflexion doit être menée de manière collective. Un élément aussi dont on n'a pas forcément parlé ce matin, mais qu'il faudrait interroger notamment sur la question des langues, c'est de savoir si on peut, par exemple, permettre d'améliorer un score, pour dire ça, après correction. Par exemple, si on propose une évaluation qui est noté, par exemple, sur 20, et puis on dit, y a la possibilité de récupérer un bonus sur un certain nombre d'éléments, si après correction, c'est mieux. Hein? Et souvent, on se rend compte que quand les enfants ont la possibilité de regagner des points après une évaluation, ils travaillent pour la correction et pour obtenir les points. Alors que pour les autres, on rend le travail, on corrige au tableau, les enfants notent la correction, mais ils oublient et vous pouvez revenir avec le même exercice quelques temps plus tard. Ils feront peut-être, pour certains en tout cas, la même erreur. ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a pu observer que quand il y a eu autocorrection après, je dirais que l'apprentissage est intégré pour la plupart d'entre eux. Donc on aurait tendance à toujours laisser la possibilité de retravailler et d'être réévalué ou d'avoir un bonus à l'issue d'une correction. Je dirais d'une manière générale que ça va quand même dans le sens de ce que l'on considère comme apprentissage, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on travaille sur le plan universitaire, personnel, il est rare qu'on ne retravaille pas nos écrits, hein, qu'on ne retravaille pas des choses. Et on va de toute façon dans ce sens-là, c'est-à-dire que les erreurs sont là, elles sont l'expression d'apprentissages qui sont progressifs, mais on retravaille nos documents, même nos cours, nos préparations, nos manières de faire. Donc on incite les enfants à ce que ce soit efficace et je dirais que ça leur rapporte un peu quelque chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec, avec cela. Hein. C'est que dans les faits, le travail préalable à l'évaluation pour les élèves comme pour les enseignants est considéré comme un travail d'apprentissage. Et que quand il y a note, c'est considéré comme quelque chose qui est sommatif. Et que du coup, ça n'a pas la même valeur symbolique pour les apprenants, voire pour l'enseignant, à ce moment-là. Et du coup, mais je suis d'accord que c'est de l'ordre de la carotte, dire attention, tu vas pouvoir avoir un bonus si. N'empêche que moi je souscris, mais alors à 100% à ce que tu dis, n'empêche que on constate que le gamin qui fait ça après la note, qui a une meilleure note, et ben ça lui reste davantage. Maintenant, c'est comme ça que c'est. Même si effectivement, d'un point de vue éducatif, le poids social de la note transmis malgré nous par nous-mêmes en tant qu'enseignants et en tant que parents, hein, parce que on a aussi un poids social qui est familial et institutionnel, ce poids de la note il reste prégnant dans des configurations qui sont les nôtres. C'est pas le cas au Canada par exemple, c'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe, notamment d'Europe du Nord, mais en France on a toujours une espèce de surinvestissement de la note. Et du coup, alors, c'est un levier pervers de l'amélioration, je suis complètement d'accord. Mais c'est une réalité dans notre contexte franco-français. Alors, c'est vrai que, par exemple, là, je me replace en tant qu'enseignante-chercheur avec des étudiants. Nous avons certaines UE qui ne sont pas des UE notées, hein, mais qui sont validées par suivi, c'est-à-dire que quand l'étudiant suit avec bénéfice cette UE, elle lui est validée dit par suivi. Et là, ça nous met en difficulté parce que pour une autre note inférieure à 10, elles sont compensables par la moyenne. Pour ces UE par suivi, c'est soit elles sont suivies, soit elles sont considérées comme non suivies ou mal suivies et elles bloquent le résultat. Donc en fait, elles ne sont pas notées, mais elles ont un poids très important puisque si elles ne sont pas suivies avec réussite, ils n'obtiennent pas leur diplôme. Là, c'est intéressant parce que quand on reçoit le travail des étudiants, on peut leur dire, on ne leur demande pas forcément l'excellence dans l'ensemble des activités qui leur sont proposées, mais par contre, on peut leur dire, attention, là, sur cette activité-là, franchement, vous n'êtes pas foulé, vous retravaillez ça, vous retravaillez ça, vous retravaillez ça. Et si c'est fait correctement, alors nous validerons l'UE. Donc là, je dirais que le retravail, il est inclus dans l'évaluation possible. Maintenant, je ne suis pas certaine qu'on puisse faire forcément une adaptation de cela au niveau secondaire, puisque quand même, on est tenu, quand on remplit les bulletins, de mettre des moyennes. Donc là, il faudra aussi réfléchir en amont, à savoir comment on fait. Parce que quand on met une mauvaise note, par exemple, on met 9, on sait que s'il a 13, ça va compenser, enfin, ce sera compensable. Sauf que là, si on valide ou qu'on valide pas, c'est binaire, c'est voilà. Si on valide pas, on valide pas, quoi. On valide pas, même en partie, même il n'y a pas de moyenne mesure qui fait que. Donc ça va introduire d'autres éléments. Je pense que l'un des gros problèmes de l'évaluation, c'est qu'il y a souvent beaucoup de confusion. Confusion dans la tête aussi des enseignants qui savent plus à quel moment ils font de l'apprentissage ou de l'enseignement et à quel moment ils évaluent. Parce que en plus, très souvent, on verra que ce ne sera pas le cas sur certains outils, mais parfois, on évalue au travers d'activités qui sont des exercices. Exactement la même chose que ce que l'on va utiliser comme apprentissage. Et on évalue sur des exercices, outils d'apprentissage. Ça pose question. Ça veut dire qu'on va confusionner le moment, comme tu le dis très bien Alain, le moment où on est dans l'apprentissage, avec le moment où on est dans l'évaluation et le moment où on rend compte de celle-ci. Et là, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur exemple de cette confusion quand on propose comme modalité d'évaluation des exercices qui sont calqués, notamment en langue, sur des exercices que l'on utilise comme outil d'apprentissage. Et là, je pense qu'on touche un nœud important de ce que l'on fait. Je vous ai mis juste une petite phrase qu'un inspecteur chargé de l'enseignement des arts plastiques avait dit à un colloque il y a de cela un certain nombre d'années. Ce qui nous importe n'est pas tellement ce que les élèves font que ce qu'ils apprennent à travers ce qu'ils font. Et dans l'évaluation aussi, même si à certains moments elle est certificative et sommative, ce qui est intéressant, si l'on évalue, c'est d'être capable de mesurer, si on doit mesurer quelque chose, c'est qu'est-ce qu'ils ont appris à travers ce qu'ils ont fait. Et même peut-être parfois s'ils n'ont pas réussi l'exercice qu'on leur avait destiné comme modalité. Alors, on va continuer avec l'évaluation plus spécifiquement, mais c'est pas tellement plus spécifique, puisque on l'a vu, tout ce qui a été discuté ce matin, ça concerne bien sûr l'ensemble des disciplines, et bien sûr les disciplines des langues, et les problèmes qu'on se pose de manière générale se posent d'une manière, je dirais, parfois accrue dans les disciplines complexes, comme l'accès aux langues, à la culture, à ces éléments-là. Alors, de manière générale, on peut dire que sur la didactique des langues, l'évaluation institutionnelle par rapport à d'autres lieux, d'autres disciplines, est plutôt en avance. Hein? Avec l'Europe, alors évidemment, il y a des soucis, des intérêts politiques et sociaux à cela. Hein? Avec la construction de l'Europe, il y a eu une vraie politique linguistique européenne, ou en tout cas de reconnaissance des langues de l'Europe, voire des langues mondiales. Et de ce fait, de nombreuses recherches ont été mises en œuvre, de nombreux outils ont été proposés par le Conseil de l'Europe, dont les portfolios dont j'ai mis un certain nombre d'éléments à la fin du livret de participants. Il y a eu vraiment, je dirais, le paquet mis en termes de recherche, en termes de volonté sur les dimensions des langues. Et du coup, ça les rend, je dirais, nettement en avant sur le plan institutionnel. Mais ça a aussi les défauts de ses qualités, hein, dans la mesure où on va avoir de plus en plus de tests standardisés pour répondre au plus grand nombre de situations possibles. Du coup, ces tests sont standardisés et transmis de manière pyramidale du haut vers le bas, avec une injonction à l'utiliser comme outil, voire outil exclusif. Alors, DELF, DALF, c'est pour la langue française, hein, mais vous avez un certain nombre d'éléments qui sont d'ailleurs eux aussi dans le livret. Sur les pays européens, il y a plusieurs éléments, hein, qui sont tout à fait intéressants. La crainte que l'on a, chercheur didacticien des langues, c'est que rapidement, l'évaluation institutionnelle prenne le pas sur des pratiques, je dirais, contextualisées d'évaluation des apprentissages langagiers. C'est-à-dire que on va, nous, notre crainte, c'est qu'on dise aux enseignants, bah, écoutez, vous devez faire passer tel truc, vous devez remplir tel papier, vous devez compléter tel formulaire, de telle manière. Tout à fait. Je dirais que c'est pour ça que je parle de défaut des qualités, parce que c'est vrai que cet engouement légitime, hein, parce que, comme vous le dites, c'était quand même le parent pauvre. Hein, bon, il y avait... les mathématiques et la langue française, et en dehors de cela, point de salut. Hein, il y a là quelque chose comme un véritable élan, partagé institutionnellement, partagé politiquement, avec une vraie volonté politique derrière, politique éducative. Les curricula sont les curricula, c'est la manière dont, tout au long de la chronologie éducative et formative d'un enfant, on va envisager à quel moment on introduit une première langue vivante, puis une deuxième langue vivante. Est-ce qu'on fait des classes européennes? Est-ce qu'on fait des classes bilingues avec des langues régionales ou pas? C'est vraiment comment institutionnellement on va organiser l'accès aux langues dans le système éducatif. Tout cela, ça s'est considérablement amélioré. Enfin, ça a vraiment même modifié complètement le paysage des langues dans l'enseignement et l'éducation, notamment en primaire et en secondaire. Bon, tout ça, tant mieux. Maintenant, évidemment, on a d'autres risques. Hein, on a d'autres risques. Alors, juste pour poser les éléments des composantes des compétences que l'on va évaluer, donc là, je vous ai mis les composantes de la compétence communicative qui a été mise en avant par Sophie Moirand dans les années 80. Vous en avez d'autres dans celui-ci, hein, BACO, l'approche par compétence dans l'enseignement des langues, dans langue et didactique, que vous connaissez peut-être. Il y en a aussi dans celui-ci et dans Velchev et Hilton. Hein. Donc vous avez des éléments, vous verrez qu'à chaque fois on propose pour une compétence communicationnelle, qu'on peut dire à communiquer langagièrement, ou compétence de communication dans une langue, un certain nombre de composantes qui peuvent être travaillées en termes didactiques de manière, j'allais dire, séparée et imbriquée. Donc une composante dite linguistique, bon, c'est pas la peine de revenir, c'est-à-dire les outils linguistiques, hein, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, l'utilisation, les contextes d'utilisation de la structure de la langue concernée, hein, avec, on l'a vu ce matin, par exemple, des disparités. Faire une dictée en correspondance graphiphonie, ça paraît tout à fait cohérent dans une langue comme l'espagnol, ça l'est moins dans une langue française, par exemple. Si c'est le seul objectif, on a, à mon avis, des difficultés. On en aura peut-être moins dans d'autres domaines. La composante dite, discursive, où on est là plus sur des situations de discours, on n'est pas dans cette approche sociolinguistique uniquement des registres de discours. Hein. C'est pas quand on parle de composante discursive, c'est pas uniquement savoir si on peut parler de manière familière, ou sur un registre courant, sur un registre soutenu, ou autre. On est dans une autre approche qui est une composante vraiment par rapport à la situation de communication, par rapport aux interlocuteurs, et de manière moins clivée que ne l'était, par exemple, le courant sociolinguiste des années 80-90. Composante dite référentielle, moi, personnellement, je ne suis pas sûre que j'utiliserai ce terme, mais en tout cas, Sophie Moirand l'utilise. Je dirais, une compétence culturelle au sens large, mais je dirais culturelle au sens de la culture cultivée, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire avoir des connaissances sur le monde qui permettent de comprendre des implicites, pas des implicites culturels dans le sens partagé par un groupe ethnique, hein, mais des éléments qui seraient soutenus de manière un peu plus collective. La composante, j'ai fait une erreur en notant, c'est pas composante socioculturelle, ça pourrait, hein, mais sociolinguistique et interculturelle, hein, mais socioculturelle finalement ça ferait les deux, mais j'ai voulu faire trop vite. C'est à la fois cette dimension de comprendre comment d'élucider les règles et les codes sociaux et les codes culturels dans les champs qui sont les nôtres. Donc, les modes interactifs entre les gens, les modes interactifs entre à l'intérieur d'un groupe, dans certaines situations, les éléments que l'on fait tout à fait... Alors, sur ce sujet-là, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent Nathalie Auger de l'IUFM de Montpellier, qui a fait un DVD avec sur Comparons nos langues. Donc c'est dans une classe de clean où il y a des enfants nouvellement arrivés. Mais ça, ce sont des choses que l'on travaille aussi dans les cours de langue. Hein. Peut-être aussi certains d'entre vous on connaissent Eve Lang, qui est surtout pour les élèves de l'élémentaire, dont Michel Candelier, qui est un collègue du Mans, a très largement travaillé. Patricia Lambert, qui est de l'INRP, y a contribué aussi. Donc, ce sont des éléments où on va nouer les questions de la langue et de la culture et des langues entre elles au service de la construction d'une compétence que moi j'appelle métalinguistique, c'est-à-dire qu'elle va permettre de nourrir et d'enrichir les apprentissages dans toutes les langues, enfin, toutes les langues que l'on va enseigner. Et sur cet élément-là, on n'a pas parlé des classes dites bilingues ou de ce que l'on voit de plus en plus se développer, c'est-à-dire des cours d'autres disciplines faites dans une langue autre que la langue de scolarisation majoritaire, c'est-à-dire le français, qui portent vraiment leurs fruits, puisque la langue, qu'elle soit anglais, espagnol, occitan ou autre, elle n'est plus seulement... l'objet d'étude, l'objet de travail, l'objet d'apprentissage, mais elle devient le vecteur d'autres apprentissages. Et donc, elle a une fonction fonctionnelle et opératoire par rapport à d'autres types d'apprentissage. Et ça, moi, je dirais que c'est probablement l'une des pistes et des perspectives ouvertes les plus prometteuses dans la didactique des langues en général. C'est-à-dire que si on arrive à développer des cours ou des possibilités institutionnelles d'accès aux langues qui vont être étudiées comme langue, hein, comme objet d'enseignement et d'apprentissage, mais qui vont être aussi utilisées d'un point de vue pratique pour l'accès à d'autres compétences, je pense que là, on va aussi développer... un champ très très ouvert de la didactique des langues qui développe cette dimension-là. Et pour moi, en tout cas, c'est moi ce que j'identifie comme l'une des perspectives, des pistes les plus prometteuses qui pourra probablement renouveler notre manière d'envisager les langues dans l'enseignement et dans les curriculums. Alors moi, je pose la question, alors certains le proposent, hein, je crois que c'est Béaco qui parle de composantes stratégiques. Moi, j'ai tendance à l'intégrer un peu dans la dimension sociolinguistique, mais de plus en plus, je pense qu'on peut se poser la question, sans forcément y répondre, de la composante stratégique de l'accès à la maîtrise de la langue, hein, et de l'accès aux compétences en termes de langue. Bon, je ne vais pas développer ça, mais je pense qu'il faut l'avoir en tête. Alors, je vais maintenant vous montrer un exemple... ça dure une dizaine de minutes. C'est un extrait vidéo qui est posté par le centre de recherche sur l'évaluation en langue de l'inspection académique de Montpellier. J'espère que vous allez bien entendre et bien voir.
Pour compléter les grilles d'évaluation, j'utilise le codage par l'erreur. C'est-à-dire que je coche quand le critère n'est pas respecté. En effet, dans une situation d'évaluation, les élèves sont supposés avoir acquis les compétences et donc je valide logiquement plus de réussite que d'échec aux différents critères. Eduardo, levántate. Ven a la pizarra. Escribe la fecha. Vuelve a tu sitio y siéntate. Toma tu bolígrafo. Cállate. La compétence évaluée dans la première situation est la compréhension des consignes de classe. J'utilise ces consignes au quotidien dans la classe et les élèves sont habitués à y réagir. Nous jouons aussi au jeu Jacques a dit pour réviser les consignes de manière plus ludique. Le critère d'évaluation est simple dans cette situation. Je valide si la consigne est correctement réalisée. Donc ici, Pierre-Édouard n'a fait aucune erreur. Il a réagi correctement aux différentes consignes qui lui ont été données, ce qui fait qu'il a eu un résultat de 6 réussites sur 6 items validés. Donc dans le cadre de Pierre-Édouard, la compétence est validée.
Choco, chocolat, la, choco, chocoté, té, chocolat, chocoté, chocolaté, té, tocati.
Dans la deuxième situation, j'évalue la capacité de l'élève à reproduire un modèle oral. Il s'agit de dire une comptine simple pour tirer au sort. J'utilise ce type de comptine dans des situations de classe, comme pour désigner un élève meneur d'un jeu ou responsable d'une tâche. Parmi les critères d'évaluation que j'ai choisis, le premier concerne la réalisation de la tâche. En effet, dans la perspective actionnelle, je mets en valeur la capacité de l'élève à faire ce qui lui est demandé en dehors de toute qualité linguistique. Ici, Axel a bien entendu réalisé la tâche. Les 3 critères suivants concernent, eux, la recevabilité linguistique. Ici, Axel a réalisé un message qui est intelligible, la prononciation est correcte, elle a bien respecté la tché, la e, et l'intonation est également correcte. Compte tenu de la simplicité de la comptine, je ne valide pas la compétence à partir de 2 items négatifs. Ici, Axel n'a fait aucune erreur. Elle n'a pas fait d'oubli ni d'ajout non plus. La compétence est donc validée.
Hola, ¿qué tal?
Bien, gracias. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Romano. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 10 años. ¿Dónde vives?
Vivo en Arsens. ¿Cuál es tu número de teléfono?
Mi número de teléfono es 046876 2514. ¿Haces deporte?
Sí, hago rugby. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
Mi fecha de nacimiento es 26 de noviembre. ¿Te gusta la paella?
Sí, me gusta la paella. ¿Te gustan las patatas fritas?
Sí, ¿te gustan las pastas fritas? ¿Tienes un perro?
Sí.
Un dialogue entre 2 élèves est mis en place pour évaluer la compétence d'interaction orale, répondre à des questions et en poser. La consigne est la suivante. L'élève doit demander des informations à son camarade pour mieux le connaître et donner des informations sur lui en répondant à des questions. Les élèves doivent poser 5 questions choisies parmi le référentiel de 11 questions connues. C'est la même chose pour les réponses. J'exige une phrase complète pour la réponse car je veux pouvoir évaluer les compétences de prononciation, d'intonation et correction grammaticale. Dans le cas des 2 élèves, Romain et Julie, on va s'intéresser d'abord à Romain. Romain a fait 2 erreurs. Au niveau de la question numéro 3, il y a un problème d'intonation. En effet, il a mal accentué le mot « numéro de téléphone ». Au niveau de ses réponses, on peut s'attacher aux réponses numéro 4, où il y a un problème de respect du phonème spécifique « ayez » dans « paella » qui a été mal prononcé en « paella ». Et au niveau de sa réponse 5, malgré la consigne qui exigeait une phrase complète pour la réponse, on a une phrase mot, simplement un « si » au lieu de « si tengo un perro ». Cependant, Romain valide sa compétence, puisque la compétence est validée si 6 questions-réponses sont justes. Passons maintenant à Julie. Donc Julie a un problème de respect du phonème spécifique EYE au niveau du mot paella. Et au niveau de sa réponse numéro 5, elle a également un problème de respect du phonème spécifique erre au niveau du mot perro, puisqu'elle dit pelo. Au niveau de ses réponses, la réponse numéro 3 présente un problème d'accentuation au niveau de numéro de telefono, ce qui correspond à la reprise de la mauvaise prononciation de Romain à la question. Certains nombres sont également mal prononcés. Au niveau de sa réponse numéro 4, on a une erreur grammaticale puisque Julie oublie elle devant la date. Il y a également un problème de prononciation puisqu'elle dit noviembre au lieu de noviembre. Au niveau de sa réponse numéro 5, nous avons également une erreur grammaticale puisque Julie utilise le pronom te gustan au lieu de me gustan. On a également un problème d'intelligibilité au niveau du mot pastas où elle hésite au lieu d'utiliser le mot patatas. Julie valide pourtant sa compétence puisqu'elle a 5 questions justes ainsi que 3 réponses justes sur les 5, ce qui fait au total 8 bonnes questions-réponses alors qu'il n'en était attendu que 6 pour valider la compétence. Dans le domaine de la compétence de l'écrit, j'évalue la compréhension de textes courts et simples en proposant aux élèves d'évaluer un quiz sur leurs connaissances culturelles. Au vu des résultats de la classe, les connaissances culturelles n'ont pas posé de problème particulier. Si on prend l'exemple de Luigi, on constate qu'il n'a fait qu'une seule erreur à la cinquième question. On peut supposer qu'il a confondu la forme affirmative avec la forme négative, étant donné qu'il n'a coché en réalité que la phrase qui n'était pas attendue. En effet, on demandait à ce que l'on coche les pays où l'on parle espagnol. Luigi n'a coché que le pays dans lequel on ne parlait pas espagnol. Au niveau 1 du cadre européen, l'expression écrite reste limitée. J'ai choisi d'évaluer la compétence écrire sous la dictée des expressions connues. Les 4 expressions ou phrases dictées sont liées à mon projet d'écriture d'une carte de vœux pour les fêtes de fin d'année. Elles comportent toutes des graphèmes spécifiques de l'espagnol que les élèves doivent orthographier correctement. Je ne tolère qu'une seule erreur d'orthographe par expression dictée. Globalement, la dictée est un exercice difficile auquel les élèves d'école primaire sont peu exposés. Si on prend l'exemple de Romain, il valide la compétence puisqu'il a 3 phrases ou expressions justes sur 4. Celle qu'il n'a pas validée correspond à la dernière phrase, « Los Reyes Magos llegan el 6 de enero », puisqu'il a mal orthographié le graphème spécifique « e » sur lequel il a mis des accents, et le phonème spécifique « eye » dans « yegan », au lieu de mettre les doubles « l », il a mis un « y ». Cette phrase n'est donc pas validée, cependant 3 sur 4 étant validée, la compétence l'est.
Oui. Alors, il faut savoir que dans le premier degré, les enseignants qui assurent les cours sont des enseignants qui sont titulaires d'une habilitation pour le faire. Donc, ils sont formés. Alors, souvent, ce sont les enseignants des classes eux-mêmes, puisque normalement, maintenant, vous le savez, pour accéder au master métier de l'enseignement, enfin, en tout cas, quand on sort du master métier de l'enseignement, il faut un niveau dans une langue étrangère qui est suffisant, qui est considéré comme B2. Donc, il faut attester de l'obtention du CLES niveau B2. Les enseignants eux-mêmes ont fait ils ont appris une langue. Leur formation, durant le premier degré, devrait les aider à didactiser leurs connaissances. Parce qu'il ne suffisait pas de parler l'espagnol pour savoir enseigner espagnol. Hein. Si tous ceux qui parlent français pouvaient être profs de français, ça se saurait. Donc, il y a les connaissances d'un côté, puis la manière de les didactiser de l'autre. Donc, ils sont nés pour obtenir leur habilitation, il faut qu'ils fassent la preuve de leur capacité à didactiser leurs connaissances dans une langue. Maintenant, ça dépend évidemment des enseignants. Dans d'autres cas, ce sont des professeurs du secondaire, de moins en moins, voire plus du tout, qui viennent faire des cours dans le cadre d'échanges de services. Mais là, depuis quelques années, enfin, je ne sais pas si certains peuvent le confirmer, je crois que ça ne se fait plus, hein. Ça se passe en primaire, mais ça pourrait tout à fait se passer en, en, en quatrième, en LV1. Hein. Là, moi, cet exemple m'a paru exemplaire dans le sens où il montre comment une enseignante, je dirais lambda, alors sûrement pas lambda puisqu'elle fait partie de ce centre de recherche, hein, donc ça veut dire qu'elle est déjà préoccupée de ces éléments-là, et manifestement elle sait très bien de quoi elle parle, mais ça n'empêche qu'on voit concrètement ce que probablement certains d'entre vous mettent en œuvre dans vos classes. Alors, moi, ce qui m'avait interpellée, mais vous n'hésiterez pas à revenir là-dessus, peut-être pour aussi témoigner de vos propres expériences, ce qui m'a interpellée, c'est que, pour ma part, quand j'ai fait des évaluations de ce genre-là, j'ai utilisé ou le magnétophone ou la vidéo pour permettre aux enfants de s'auto-évaluer. Ce qui n'est pas le cas là. Là, c'est l'enseignante qui évalue. Et l'enfant n'a pas la possibilité de revenir sur son discours ou sur sa prestation actionnelle pour voir ce qu'il a fait, pas fait, où il s'est trompé, où il ne s'est pas trompé. Et ça, je trouve que en termes d'auto-évaluation, ça manque. Hein. Pour le reste, je trouve que c'est tout à fait intéressant de faire ce qu'elle fait là, et on voit bien comment on peut, dans une perspective dite actionnelle, évaluer. Alors que c'est quelque chose qui peut... Là, elle le met en scène, je dirais, pour nous. Mais rien n'empêche que le matin, quand le premier jour, quand vous arrivez, vous demandiez à l'un ou l'autre de vos élèves d'aller mettre la date au tableau et vous cochez sans que personne n'en sache rien que pour vous, c'est bon, quoi. Hein? Donc, ça peut être aussi une évaluation que vous faites sans que l'élève ne sente qu'il est en situation d'évaluation. Hein? Non, mais de toute façon, personne ne connaît cette jeune femme qui a beaucoup de mérite de s'exposer comme ça, parce que c'est très compliqué. Les critiques, nous essaierons de, si nous mettons le PowerPoint, en tout cas le film en ligne, on demandera à ce que ce soit coupé, hein? Donc qu'il ne soit pas transmis à tout le monde le jugement sur une collègue qui se montre au bénéfice de tous et qu'on la critique, donc on demandera à le couper. Par contre, effectivement, je pense qu'on peut tout à fait utiliser cela pour voir ce qui nous paraît intéressant, et puis je pense qu'effectivement il y a là quelque chose de l'ordre de la mise en scène exemplariste pour montrer ce qu'elle veut montrer, hein, et que certainement les défauts sont de là, mais il y a quand même au fond des éléments sur ce que c'est que l'approche actionnelle, sur comment les autres participent à l'évaluation de deux, par exemple. Alors, je vais passer la parole à Alain, puis après, si vous voulez développer, c'est d'autant plus vrai, me semble-t-il, que là, je dirais que les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est un public particulier. C'est-à-dire que des gens qui viennent déjà pour travailler sur ce genre de choses, ils ne sont pas forcément novices. Ils sont déjà expérimentés, ils se sont déjà posé ces questions, ils ont souvent expérimenté eux-mêmes des choses et ils ont envie d'aller plus loin. Donc, effectivement, ce que l'on voit là, on peut se dire pour un public, je dirais, averti, on voit plus rapidement les critiques que l'on pourrait éventuellement faire. Il faut se dire que pour un public non averti, ça peut être une révélation qu'on puisse évaluer comme ça. Donc c'est vrai que moi je te rejoins complètement sur l'idée de culture intermédiaire d'accès, hein, enfin, ou d'accès à une culture intermédiaire, ou enfin de moyens. Je vous crois sincère, hein, et je vous crois sur parole. Les gens ici l'ont peut-être tous fait, mais pour avoir vu des enseignants en exercice, tous les enseignants de langue ne le font pas. Et tous les enseignants de langue ne l'ont pas fait. Donc je pense qu'effectivement il y a là une avancée tout à fait marquante, hein. Ça rentre dans les mœurs évaluatives, on prend en compte les niveaux du cadre européen dans la pratique de la classe et du socle commun, hein, puisque là, cette collègue dit bien, on est dans le champ du niveau A1 qui est le niveau requis à la fin du CM2 avant l'entrée au niveau du collège. Donc, cette culture est intégrée, on intègre les niveaux et on essaye d'adapter, alors avec plus ou moins de réussite, les modalités d'évaluation à ce qu'on nous demande de faire. Alors, moi, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir travailler sur ces éléments-là. Est-ce que vous, dans vos pratiques d'enseignant, ou dans vos pratiques de formateur, ou dans vos pratiques d'inspecteur qui voyez des enseignants à l'œuvre, vous avez expérimenté d'autres manières? Donc, vous disiez tout à l'heure, Yoli, moi, je ne trouve pas que ce soit actionnel. Donc, ça veut dire que vous avez en tête des choses qui pourraient l'être. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus? Moi, je considère qu'effectivement, c'est de l'actionnel un peu mis en scène, donc du coup, qui perd de sa fertilité, de sa fécondité. Hein. Mais en même temps, on voit bien les idées forces, on voit bien ce qu'elle a en tête, on voit bien ces éléments de ce sur quoi, ce qu'elle va considérer comme signifiant. Hein. On voit aussi, et ça c'est intéressant par rapport à des questions que vous avez soulevées ce matin, c'est-à-dire qu'elle considère, et là j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que la compétence est validée même si il n'y a que 6 items, ou 8 items, pardon, sur 10 qui sont validés parce qu'elle estime que la compétence à partir de 6, alors je ne sais pas pourquoi, probablement qu'elle aurait des raisons explicatives, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça, je trouve que c'est quand même une démarche intéressante qui va dans le sens de ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire la compétence plurilingue, c'est-à-dire qu'on va réhabiliter les compétences dites partielles. Même si on n'est pas expert dans la maîtrise d'une langue et dans l'ensemble des composantes de la compétence, on peut quand même être considéré comme suffisamment compétent pour valider un niveau, ou en tout cas dans l'action, être opérationnel. Ça, je pense que ça aussi, c'est une étape nouvelle, cette réhabilitation de compétences partielles. Là, on voit des compétences partielles par rapport à une compétence spécifique. On peut aussi avoir des habiletés déséquilibrées à certains moments. Hein. On l'a dit ce matin, soit sur des différents types de... Bon, le cadre européen, il vous dit production orale, production écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Moi, je rajouterais compétences communicationnelles non verbales aussi, qui n'est pas prise en compte de cette manière-là, en tout cas dans le cadre commun. Ces éléments-là, on peut valider une compétence à un niveau, même si ça n'est pas toujours équilibré partout. Et souvent, les enseignants, alors je pense que ça n'est pas votre cas, puisque je vois vos réactions, mais souvent, les enseignants, s'ils ne savent pas tout faire, ça ne va pas, quoi. Hein? C'est que accepter qu'on valide une compétence alors que y a des items qui ne sont pas validés, ça coince, hein? Même si on leur dit oui, ça coince quand même. C'est-à-dire que c'est plus un jeu de rôle, hein? C'est un jeu de rôle plutôt que les activités que vous avez présentées tout à l'heure. Par contre, là où je vous rejoins totalement, c'est que là, on est dans une compétence de communication, et dans la communication, il est extrêmement rare qu'on répète une phrase quand on répond à une question. Hein, c'est très très rare. Et qu'effectivement, exiger cela, c'est un exercice plutôt qu'une compétence de communication qui va être évaluée. Oui, mais je crois que la question là, elle est plus tellement de savoir si c'est interactionnel ou pas, ou actionnel. Voilà. C'est vrai qu'il y a l'adaptation, effectivement. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce que l'on peut en tirer en termes d'évaluation, je dirais. Hein. Est-ce que ça vous paraît, par rapport à vos pratiques, des éléments nouveaux, pas nouveaux, comment vous les amélioreriez éventuellement? Là sur cette dimension là, sur cette dimension, il y a le poids de l'anglais comme langue, je dirais, mondialisée ou mondialisante. Il y a aussi l'idée que pourtant les recherches battent en brèche, hein, qu'il y aurait des formes de bilinguisme dit favorisant, positif, c'est-à-dire qui enrichirait les élèves, donc dont l'anglais fait partie, hein, mais des bilinguismes qui peuvent aussi être des bilinguismes familiaux, c'est-à-dire qu'on va dire volontiers à un enfant dont la maman est allemande et le papa français, quelle chance tu as, tu vas être bilingue. Et si, à l'inverse, il est dans une famille, on va dire, arabophone et française, ou arabophone, on va lui dire « Ah, mon pauvre chéri, t'es pas sorti de l'auberge ». Avec l'idée qu'il y a des bilinguismes qui favorisent les apprentissages, l'expérience, et qui sont favorables à l'enfant, et des bilinguismes qui parasitent, qui gênent, qui sont défavorables à l'enfant. Or, le travail qui a été fait sur Evelang, sur les intercompréhensions entre les langues, sur toutes les recherches cognitives aussi dans l'apprentissage des langues, montre que quelles que soient les langues que l'on apprend, plus on en maîtrise, meilleur on est dans l'ensemble des langues. Mieux on maîtrise une langue, que ce soit sa langue maternelle ou familiale, que ce soit de l'arabe, du rom, de l'espagnol, de l'anglais, mieux on maîtrise cette langue, mieux on maîtrisera le français comme langue de scolarisation. Quand on connaît 2, 3, 4 langues de manière raisonnable, je ne dis pas parfaite, mais raisonnable, ces connaissances, ces processus et ces compétences se mettent au service de l'apprentissage d'autres langues. On dit de manière caricaturale, les 3 premières c'est dur, et après vous pouvez en enchaîner des 5, 6, 7, c'est quand même nettement plus facile. Je ne sais pas, moi je ne parle pas autant de langues, hein. Mais pour avoir vu des polyglottes me dire ça, et c'est fréquent. Donc, il y a là des éléments, je pense, sur la place de l'anglais, évidemment, dans la mondialisation, mais aussi sur des représentations des langues et des bilinguismes, voire des plurilinguismes, qui sont véhiculés aussi par les enseignants. On ne fait pas l'économie de s'interroger en tant que professionnel sur ces représentations des langues dont certaines seraient plus favorables que d'autres à la maîtrise des compétences en langue. Je pense que là aussi, il y a une dimension à interroger. Je vais continuer. Là, je vous donne ces éléments, mais vous les avez. Hein, c'est les types, je dirais, de référentiels certificatifs en fonction des certains pays. Vous les avez dans le livret du participant, si ça vous intéresse de voir comment ils sont construits. Je reviens un moment sur une proposition que font Feldchef et Hilton sur l'adéquation. On en parlait, est-ce que par exemple ce qu'on a vu pour la compétence de communication, c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on évalue, est-ce qu'on évalue plutôt des compétences linguistiques ou pas. Il propose une typographie, des activités que l'on peut proposer. Alors, je vais vous dire à quelle page je l'ai mis. Ça n'y est pas. Je vous le ferai parvenir. Hein. Sinon, c'est dans celui-ci, l'évaluation en FLE. Alors, dans l'évaluation en FLE, ne vous faites pas peur avec le FLE. Hein, c'est français langue étrangère. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui sont utilisables dans toutes les langues. Il faut savoir que le FLE, je ne prêche pas particulièrement pour ma paroisse, mais sincèrement, le français langue étrangère, en tout cas en France, a été à l'origine de très nombreux travaux sur la didactique des langues en général. Et Castellotti, Véronique Castellotti, qui est professeure à l'université de Tours, fait partie d'un groupe au Conseil de l'Europe qui a fait le portfolio européen des langues que vous verrez. Vraiment, les chercheurs en FLE et en didactique du FLE ont fait avancer la didactique des langues en Europe. Hein, en Europe. Donc là, vous avez des éléments, je vous le conseille, parce que c'est un outil, je dirais, pratique. Alors, comme tous les outils pratiques, il faut regarder, analyser le contexte, ça va pas, ça m'intéresse, ça c'est pas pour moi. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un outil pratique et que c'est valable pour tout le monde, dans tous les cas, dans toutes les situations. Oui ? Il est à critiquer, à analyser avant de voir si vous pouvez l'utiliser. mais je vous conseille pour un certain nombre d'éléments. Là, je vous avais mis un élément, mais ce n'est pas intéressant, donc juste je passe dessus. C'était juste pour vous montrer comment on avait évolué sur, je dirais, le traitement d'une même micro-compétence qui est la discrimination auditive entre des exercices qui étaient proposés sur votre gauche, votre gauche, et sur la même compétence, des éléments sur la discrimination auditive qui sont proposés maintenant. Vous voyez qu'il y a des manières de faire différentes, des mises en œuvre différentes, des postures épistémologiques derrière qui sont différentes. L'utilisation des corpus oraux enregistrés sont extrêmement fréquents maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, où on pouvait aussi enseigner la langue orale sans jamais entendre ou utiliser un corpus oral. Ce qui évidemment, donc vous voyez, vous mesurez sur une même micro-compétence comment on a quand même franchi un pas important dans la didactique des langues et dans la question de l'évaluation. Ça n'avait pas d'autre fonction que celle-ci. Un petit outil tiré là encore de Weltchef et Hilton, une fiche de préparation, enfin une fiche d'accompagnement à la préparation d'une évaluation. Un certain nombre d'éléments auxquels il faut penser. Quels sont les éléments dont vous allez avoir besoin pour construire votre évaluation? Quels sont les objectifs, les caractéristiques? Est-ce que c'est sommatif, formatif? Est-ce que vous voulez que ce soit critérié ou non? Est-ce que c'est de type certificatif? Est-ce que c'est évalué par le professeur? Est-ce que c'est auto-évalué? Moi, je rajouterais, est-ce que c'est co-évalué? Co-évaluation, ça peut être par l'élève et l'enseignant, ça peut être par l'élève et d'autres élèves, ça peut être une co-évaluation collective. Construction de l'évaluation, donc est-ce que vous allez proposer des listes de descripteurs? Est-ce que vous prenez tous les descripteurs? Est-ce que vous en choisissez certains? Si vous n'en choisissez que certains, attention, est-ce que vous allez compter comme erreur ou faute ou sanctionner les erreurs aux descripteurs que vous n'aurez pas sélectionnés? Donc, tous ces éléments-là, il faut y réfléchir. Quels seront les exercices proposés pour soutenir cette évaluation? Voilà, donc des éléments pour caler un petit peu. Je dirais que c'est moins peut-être pour vous que pour éventuellement des accompagnements de formation que vous pourriez faire si par exemple vous travaillez avec des professeurs des écoles. Je vous montre rapidement, mais je ne développe pas parce que vous êtes rompu à cela, qu'il y a différentes manières d'évaluer en fonction des approches qui sont attendues. On en a parlé, on l'a vu. Vous voyez des éléments à chaque fois que l'on s'interroge sur un document d'évaluation. Est-ce qu'on est bien en situation de mettre l'enfant dans un contexte qui va nous permettre d'évaluer ce que nous voulons évaluer et pas autre chose? Donc, en approche communicative, on a parlé ce matin de scénarios d'évaluation. Je vous en ai présenté deux dans le livret. Une évaluation, un scénario d'évaluation qui est, je dirais grossièrement, de la page 8 à la page 13. Donc les scénarios d'évaluation, je crois que Céline, vous connaissez, donc vous pouvez expliquer un petit peu, si ça ne vous ennuie pas, de quoi il s'agit? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va par exemple donner un projet, un objectif à atteindre avec des outils à disposition et on va demander aux élèves de mener à bien ces tâches-là de la manière qu'ils veulent, mais avec des étapes qu'ils vont avoir à respecter. Et donc la compréhension va se faire au fur et à mesure de production. Je dirais que c'est un peu par une construction de savoir. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les informations, on va aller s'informer, on va aller faire les démarches, téléphoner, écrire, aller sur Internet, dans la langue. Attention, là je vous ai mis un scénario qui est fait en espagnol dans une classe de seconde en LV2. Donc l'activité c'est de permettre à des enfants de faire les démarches pour organiser des vacances, un séjour. Ils vont avoir un certain nombre de tâches à faire, de documents à consulter, d'emails ou de documents de formulaire à compléter, des éléments à écrire, et puis il y aura un certain nombre d'éléments d'évaluation. Je vous ai mis ensuite un deuxième outil de scénario d'évaluation. Vous allez me dire pourquoi vous en avez mis deux, puisque celui-ci a l'intérêt, il a été mis en place dans le Val d'Aoste par une de nos collègues, et il a l'intérêt d'être plurilingue. C'est-à-dire que vous voyez dans le tableau qui est là, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'activités, que pour chacune des activités, il y a une langue de consigne qui peut être ou le français ou l'italien, ou les deux. La langue des documents qui sont utilisés, qui peuvent être français, italien, anglais et allemand. C'est variable selon les documents. Et la langue attendue pour la réponse est elle aussi variable. On peut exiger qu'elle soit en italien, exiger qu'elle soit en français, ou permettre qu'elle soit ou en italien ou en français, voire en anglais. Pour un scénario d'évaluation qui est pratiquement sur le même, je dirais, modèle que le scénario précédent. Mais l'intérêt, c'est qu'il intègre la possibilité de travailler à parité sur des compétences qui sont dans plusieurs langues. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des outils d'évaluation où vous intégrez, je dirais, formellement d'autres langues? On en a parlé ce matin pour le bac, par exemple. Mais est-ce que vous utilisez d'autres langues dans vos scénarios d'évaluation ou dans les modalités d'évaluation que vous proposez? Est-ce que vous verriez comme ça d'emblée des difficultés, des freins, des choses qui empêcheraient que ça marche, ou au contraire des opportunités, des possibilités? Oui. Alors la question c'est ça, c'est est-ce que c'était ça qu'il fallait évaluer à ce moment-là? Alors c'est curieux dans la mesure où la mise en œuvre d'un débat plurilingue qui est tout à fait intéressante, ça permet notamment de voir comment un élève qui a un répertoire verbal plurilingue, pour une fois qu'on ne lui demande pas de se saucissonner, comment il va être capable d'optimiser ses compétences partielles et déséquilibrées en fonction de la situation. C'est-à-dire à quel moment il se dit « Ah ben là, c'est mieux en espagnol ou en anglais », comment je joue de l'un à l'autre et comment je rentre dans une interaction avec les autres de cette manière plurilingue. C'est vrai que le critère de la langue, il est intéressant, mais exclusivement de manière transversale. C'est-à-dire que si dans un débat plurilingue, on considère comme un critère essentiel la maîtrise, je dirais, bien réglée de l'une ou de l'autre langue ou de l'autre langue, comme c'est ça le critère essentiel, je pense qu'il y a une difficulté d'adéquation entre l'objectif du débat plurilingue et ce qui va être évalué à son travers. On ne peut pas être dans une approche plurilingue et prêcher chacun pour sa paroisse, hein, en disant les autres, hormis ma discipline, point de salut. Ça va complètement, alors là c'est une contradiction profonde avec l'esprit des compétences plurilingues. Bien sûr on aura des compétences, je ne vous oublie pas Loïc, hein, bien sûr je le cale là, hein, et puis Loïc ensuite pourra parler tout son sou. La compétence plurilingue, on va la préciser, hein. Il s'agit bien sûr d'une compétence à communiquer langagièrement, ça on est bien d'accord, mais avec une maîtrise à des degrés divers, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout bien faire partout, tout le temps. Hein? notamment de plusieurs langues. Et ce que vous dites là de cette jeune fille qui passe de l'un à l'autre en fonction de son interlocuteur et de ce qu'elle a à dire et de... ça remplit complètement cet usage. Hein. Avec une expérience aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de plusieurs cultures et notamment des compétences à interagir culturellement. Ça, on n'en a pas parlé non plus, mais ça serait un autre débat dans la didactique des langues et cultures. C'est une compétence plurielle. Et c'est pour ça qu'on ne va pas commencer à tirer à U et à Dia sur quel bout de la compétence est plus mieux que l'autre. Hein. Elle est complexe, hétérogène, composite. Moi, je trouve que c'est peut-être pas le mot, parce que composite, pour moi, ça donne un peu juxtaposé. Or, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment imbriqué, ben, c'est la notion de complexus, hein, de vraiment tout ce qui est qui interagit, qui s'imbrique, qui se tricote. Attention, on peut avoir des compétences qui sont identifiables à certains moments, hein, mais elles ne sont pas identifiables les unes par rapport aux autres de manière sans frontières. Hein, c'est-à-dire, elles ne sont pas isolables complètement les unes des autres. Ça inclut, je le disais, les compétences partielles. Attention, elle est quand même une. C'est-à-dire qu'on considère que on réhabilite la personne dans la compétence langagière, puisque c'est la personne qui a un répertoire plurilingue. Elle a des habiletés multiples, variables, pas forcément équilibrées dans plusieurs éléments, mais en tant qu'acteur social, dans la réalité des interactions, elle sait mettre en œuvre la maîtrise de ses compétences, qui sont les siennes. Et on arrête de la saucissonner en « là tu parles anglais, là tu parles espagnol », ce qui est tout à fait... C'est sûr que si elle va en Espagne, elle parlera probablement espagnol. Si elle va en Angleterre ou aux États-Unis, elle parlera probablement l'anglais ou l'américain. Mais elle est aussi capable de mettre et de mobiliser des compétences. C'est Kostmour et Zarat qui ont, je dirais, théorisé ces dimensions-là. On le retrouve aussi dans le chapitre 6 du CECRL. Cette notion de compétence partielle, au lieu de parler de la discipline ou d'un bout de ce que sait faire le locuteur ou l'acteur social, on considère que l'apprenant, c'est un acteur social qui a un répertoire langagier, qui a un répertoire communicationnel et culturel, qui va savoir mettre en œuvre de manière adaptée à certains moments. Et là, effectivement, comme vous le disiez, si on commence à regarder dans le pré du voisin s'il a plus parlé anglais ou plus espagnol, ça ne va pas du tout. Moi, ça me semble enfin, ce que vous racontez les uns et les autres, et puis je pense qu'il y a d'autres expériences. Je pense que c'est vraiment porteur aussi d'une nouvelle approche, je dirais disciplinaire, c'est-à-dire considérant les langues comme une discipline, mais pas disciplinaire de manière séparée, distincte, disjointe des langues entre elles. Et il me semble que ce dont vous témoignez là sert la cause, je dirais, des langues dans l'éducation. Et quand on sert la cause de l'une, on sert la cause de l'autre, peut-être pas toujours de l'anglais, mais bon, non, ça c'était juste une plaisanterie. Mais c'est vrai que on a intérêt à développer ces éléments-là. Quand je disais le FLE a fait beaucoup pour la didactique des langues dans l'Europe, bien sûr, les didactiques en anglais, en espagnol, sur les langues régionales aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été théorisées sur les bilinguismes régionaux en France qui servent aussi la cause des langues dites étrangères. Hein. Et sur ce point-là, je trouve tout à fait intéressant, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises et dans les recherches qu'on a pu mener justement sur le plurilinguisme, que des élèves qui n'étaient pas forcément très performants dans l'une ou l'autre des disciplines avaient une forme de débrouillardise linguistique dans les situations plurilingues qui les rendait extrêmement compétents. Hein. Et on a vu s'inverser des tendances dans ces situations-là où des élèves qui se reconnaissaient pas du tout compétents en langue se trouver en situation d'extrême réussite et de médiation entre les langues, mais aussi de médiation relationnelle avec d'autres, c'est-à-dire du genre « Ah oui, mais t'as pas compris, attends, je vais te dire hein, », avec des élèves peut-être plus expérimentés, mais du coup qui avaient une espèce de figement, de sidération à un exercice qui était assez déstabilisant pour eux. Et je trouve ça tout à fait intéressant de voir que ce sont effectivement souvent de très bons élèves, enfin, en tout cas avancés dans les langues, mais pas systématiquement. Je vais, pour terminer, je conclue. Oui. Je conclue en vous montrant, je vous ai montré plusieurs propositions qui sont dans le livret du participant de portfolio, hein, de compétences, c'est-à-dire la possibilité pour un apprenant d'évaluer ses compétences soit tout seul, soit avec d'autres. Celui qui, à mon avis, est le plus ouvert sur les compétences plurilingues et pluriculturelles, c'est celui justement fait par Castellotti, entre autres. C'est le niveau collège du Conseil de l'Europe. Vous voyez qu'il y a L1, L2, L3, L4, qu'à chaque fois, il y a les émoticônes, donc vous avez entendu ce que j'en pense par ailleurs. Maintenant, bon, voilà. Bon, moi, je... Bon. Mais il est adaptable, hein, si vous le souhaitez. Il prend un certain nombre... Bon, là, j'ai choisi le niveau B1, hein, mais vous voyez un certain nombre d'éléments... S'exprimer en continu à l'oral, écrire, lire et comprendre mes stratégies, c'est-à-dire qu'il intègre aussi des stratégies, une réflexivité sur la stratégie. Par exemple, je sais faire des hypothèses sur le sens d'un mot inconnu d'après le contexte ou d'après ma connaissance d'une langue parente. Hein, c'est pas noté là, mais par exemple, je sais que dans les langues romanes, Ça se dit à peu près ça, peut-être que ça pourrait vouloir dire ça, avec le risque des faux amis, bien entendu. Mais c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la stratégie. Je le trouve, moi, particulièrement très intéressant comme outil auto-formatif évaluatif. Et il est aussi très riche pour les enseignants. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut quand même valider de manière assez fiable les éléments du CECRL au niveau du collège. Notamment en termes de compétences plurilingues, mais pas seulement, parce que ça veut dire que vous pouvez l'utiliser en anglais, enfin en LV1, en LV2, voire dans d'autres langues. Et avec la possibilité de réhabiliter des langues familiales. Oui ? Bien sûr. Oui, c'est la meilleure. Enfin, c'est la meilleure, je veux dire, c'est celle qui est la plus... novatrice et qui apporte les outils qu'on n'avait pas jusque-là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir, sincèrement. Alors, je vais conclure parce que je vois qu'Alain s'est levé. Ça veut dire, attention, il est 16h, il faut s'arrêter. Tu as raison. Je voulais donc vous remercier de votre attention. Je ne souhaitais pas apporter de réponse à des questions qu'on se pose, parce que je pense sincèrement, c'est pas parce que je suis chercheur spécialement, hein, je suis aussi une praticienne de l'éducation nationale, puis une praticienne de l'éducation et de l'enseignement. Je pense pas qu'on puisse apporter de réponse sur les questions d'évaluation. Je pense qu'on peut se poser des questions, mesurer, comme l'a dit très bien tout à l'heure Alain, qu'on est sur une dynamique autour de la question de l'évaluation qui nous emmène vers des champs nouveaux, notamment autour de la question de l'acceptation de compétences plurilingues. Voilà, j'ai essayé et je vous remercie beaucoup de votre participation. Je n'ai pas fait les choses telles que je les avais initialement prévues, mais je dirais que les interactions, je suis très contente d'être venue en fin de semaine. Puisque vous vous étiez connus, vous aviez déjà travaillé sur d'autres choses, ce qui fait que les interactions ont été vraiment très riches. Non, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Je trouve ça plutôt très bon signe. Je vous remercie beaucoup. Merci.